Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission du bimestriel. Alors ça doit faire un petit moment déjà qu'on ne vous avait pas retrouvé, n'est-ce pas? J'en entends déjà derrière moi qui rigole. Mais si on revient si tardivement, pardon, c'est pas pour revenir les mains vides justement, car vous l'entendrez au fur et à mesure. Si j'ai parlé du bimestriel et pas du bimestriel manga, c'est qu'on va vous parler aussi de d'autres bandes dessinées, donc de la bande dessinée franco-belge, du comics également. Bien évidemment, il y a encore une grande partie au manga, on verra au fur et à mesure des émissions. Et donc on est aussi là pour vous parler de tout ça. Il y aura des nouvelles rubriques que vous entendrez au fur et à mesure de l'émission. Et donc on est aussi là pour évidemment vous apporter notre point de vue sur les dernières sorties. Alors vous l'avez déjà entendu. Ricanant, bonsoir Corita.
Bonsoir.
Heureux de revenir depuis ce temps, depuis
Non,
ces...
non.
Non.
Laissez-moi partir.
Merci de m'aider en tout cas à ce niveau-là, de montrer ta passion et ton enthousiasme
Toujours là.
non fin. Et nous avons également à nos côtés un des tauliers de la maison, puisque nous retrouvons Toontoon. Bonsoir Toontoon.
Bonjour.
J'espère que vous avez. Je vois que la liste est quand même assez impressionnante au niveau des sorties, donc on va pas perdre non plus beaucoup de temps. On va pouvoir se lancer directement dans le vif du sujet. Alors on va commencer en fait par tous les premiers tomes, hein, les nouvelles séries qu'on a commencées depuis quelques temps déjà. Alors on va d'abord, moi je dois vous parler du Maître des Livres, tome 1 et 2, puisqu'ils sont sortis simultanément. Donc ça se passe chez Komiku. Et c'est dessiné par Umiharu Shinohara. Alors ça se passe, alors je vais vous lire le petit speech qui pour une fois est mis au dos des tomes, ce qui est suffisamment rare. À la bibliothèque pour enfants La Rose-Trémière, vous êtes accueilli conseillé par Miko Shiba, un bibliothécaire pardon, binoclard, célèbre pour son caractère bien trempé. Mais contrairement à ce qu'il peut laisser paraître, c'est un professionnel de premier ordre. Aujourd'hui encore, adultes comme enfants, perdus dans leur vie, viennent à lui en espérant qu'il leur trouvera le livre salvateur. Une histoire passionnante centrée sur la littérature et Miko Shiba, le sommelier du livre pour enfants. Car en effet, le but en fait du livre, derrière les histoires qui vont se dérouler, c'est de nous faire découvrir ou redécouvrir des livres qu'on a pu lire étant enfant, des histoires qu'on a pu lire étant enfant, comme Le Prince Heureux, Nils Holgersson, toute cette littérature jeunesse, pardon, qui va parler au plus grand nombre et qui va nous aussi du coup nous permettre de découvrir des nouvelles histoires, des nouveaux romans. Alors ce qui est vraiment très intéressant, c'est que même si on s'intéresse qu'à la littérature jeunesse, et notamment le premier chapitre met en avant cela, c'est que la littérature jeunesse ne s'adresse pas qu'aux enfants. On peut toujours y voir un double langage, un langage adapté pour les enfants et aussi pour les adultes, pour montrer qu'il y a aussi une façon, un nouveau plaisir de relire une histoire qu'on a déjà lue et qu'on connaît déjà. Donc vraiment, les deux premiers tomes sont plutôt pas mal faits. Alors parfois, j'ai trouvé quelques petites longueurs, pardon, quelques stéréotypes aussi au niveau des histoires sur ces différents chapitres. Alors le dessin, ça se rapproche pour moi, hein, ça se rapproche un peu notamment du shoujo, notamment au niveau des visages, très fins, très peu de détails, mais ça n'empêche pas, voilà, ça n'empêche pas d'apprécier le roman et d'apprécier les personnages qui prennent un peu plus de profondeur et d'épaisseur au fur et à mesure des chapitres. C'est plutôt intéressant, c'est toujours pareil, ce qui est intéressant avec ce type de livre, c'est que ça va nous donner envie d'aller plus loin dans la lecture, parce qu'on a des vraies clés de lecture sur des histoires à lire ou à découvrir aussi si on ne les connaissait pas auparavant. Alors je sais que toi, Antoine, tu l'as lu également, tu as lu ces deux premiers tomes, qu'est-ce que tu en as
Oui,
pensé?
c'est mon gros coup de cœur de la rentrée en fait. J'ai trouvé tout très très bien dans ces deux premiers tomes et notamment tout l'univers qui, enfin pas l'univers mais l'environnement de la bibliothèque et tout ce qui est lié et notamment les personnages que je trouve vraiment tous ils apportent tous quelque chose. Ils sont assez différents mais ils apportent tous quelque chose. Et ils nous rappellent que la littérature jeunesse, c'est pas juste pour les enfants, c'est de la vraie littérature. et que on a tous besoin de cette petite part d'aventure dans nos vies. Et voilà, et c'est vraiment très très plaisant à lire, et je le recommande fortement parce que voilà, c'est une bouffée d'air frais dans cette rentrée manga.
Parfait.
Question.
Oui.
Est-ce que pour 8,50€, c'est du bon contenu et du bon papier et de la bonne édition?
Ah oui, oui, oui. Alors déjà, t'as dû les couvertures, t'as un vernis sélectif, ce qui est fort agréable. Puis après, sur un escabeau, exactement.
Wow.
Sur la couverture du tome 1, il y a un escabeau, il est en vernis sélectif.
Enfin voilà, c'est pas le plus important. Après, Komiku, ils font toujours des belles éditions.
Oui, c'est vrai.
Là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci à avoir. Il n'y a pas des feuilles volantes ou ces choses-là. Tu n'as pas de l'encre que tu peux avoir sur les doigts. C'est du papier assez épais et ça rend vraiment la lecture agréable tout au long des deux tomes. Hein. De toute façon, chez Komiku, que ce soit le maître des livres, le chef de Nobunaga, premier tome, quand ils se sont lancés L'île infernale ou d'autres encore, c'était vraiment, ça reste encore de la belle. Du bel ouvrage, et ça mérite amplement ce tarif-là.
D'accord.
On va pouvoir passer à la suite. Toon, alors tu as lu, j'ai pas encore eu la chance de lire parce que je l'ai pas trouvé, je suis un peu déçu de pas l'avoir trouvé.
C'est dommage.
C'est le dernier titre de Yuko. Premier tome et dernier titre sorti en France de Yuko Ozada. Qu'on avait notamment chroniqué, mais en avant, il y a quelques temps déjà, par rapport à la série Run the Burst.
Donc, c'est édité. La série Run the Burst.
Exactement. C'est édité chez Kiun. Ça coûte 7,90€. Tu vas nous en parler. L'histoire n'est pas forcément facile, on va dire. En tout cas, le piste de départ n'est pas forcément facile, mais je vais te laisser nous raconter ça un peu plus clairement.
En fait, c'est déjà ce qu'il faut noter, c'est que. C'est étonnamment, et malgré la couverture, dans la collection Kiun Senen, puisque oui, ce n'est pas un shonen comme le fait habituellement l'auteur, mais c'est un seinen. Et donc ça raconte l'histoire d'un lycéen, puisque les lycéens sont jeunes en général, d'un lycéen qui s'appelle Kinjiro Yaoi, et qui est un peu le gros bras, le gros loupard du lycée. Il se bagarre avec tous les lycées aux alentours, et il passe son temps donc à se battre, à sécher les cours, et il a une crête décolorée sur la tête, et voilà, donc il a des pansements partout, il passe son temps à se battre, et il est ami avec une jeune fille qui est à peu près tout l'opposé. Et ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, ils sont plus ou moins amoureux, comme à chaque fois dans les mangas. Et en fait, un jour où elle lui propose de venir voir un concours de comique avec elle, il refuse et décide d'aller se battre. Et pendant ce temps-là, elle se fait alpaguer par une bande rivale et se fait violer. Et voilà, le truc un peu classique d'un premier chapitre de ce genre-là. Et en fait, lui, donc elle, après le viol, décide, reste enfermée pendant de longs mois dans sa chambre, ne sort plus du tout. Elle reste cloîtrée chez elle. Et lui vient tous les jours lui offrir... lui déposer des beignets qu'elle aimait tant, ou lui offrir des places pour des spectacles, etc., sans jamais qu'elle lui ouvre la porte. Et il cherche par tous les moyens à la faire retrouver le sourire, à la faire sortir de chez elle. Et c'est là qu'il se rend compte que, en fait, elle a toujours apprécié donc de l'humour japonais, typiquement japonais, des façons de se mettre en scène. Pour les comiques japonais, j'ai perdu le nom de cette forme d'humour, mais voilà, elle a toujours aimé ça, et lui décide de s'y mettre pour la faire retrouver le sourire. Et en fait, on se rend compte très rapidement qu'il est absolument pas doué pour ça. Il est très très premier degré, et du coup, il passe à chaque fois, on rigole, mais on rigole de lui plutôt que de ses blagues. Et du coup, c'est un total changement de personnalité de sa part, puisque avant il était extrêmement fier de ce qui est enfin de lui et il supportait pas qu'on rigole, il comprenait pas ce que c'était le rire. Et du coup, il doit se faire violence pour justement accepter que cette fois on se moque de lui. Donc voilà, il y a toute une évolution dans son personnage qui amène à justement découvrir en plus de ça cette façon de rire et ce style d'humour très particulier qui se fait avec un tableau blanc et un stylo et où on doit se mettre en situation et sortir des phrases un petit peu, enfin jouer sur les mots, etc. Et du coup, en même temps qu'on a cette évolution de personnage qui est super bien mise en scène par l'auteur, on a cet humour typiquement japonais qui nous est expliqué et qu'on découvre au fur et à mesure, et qui est assez inhabituel dans un manga et qui est extrêmement dur à mettre en scène puisque c'est statique et il se passe rien de particulier. Mais l'auteur est vraiment extrêmement fort pour ça, c'est que de par son trait assez rond et extrêmement agréable à l'œil et sa mise en scène qui est absolument remarquable, il a des compositions sur certaines pages, notamment avec la lumière, etc. qui sont complètement dingues. Moi, à chaque fois, je suis estomaqué par ces pages. Et du coup, le mélange de tout ça fait qu'on a un manga très inhabituel pour Yoko Osada, mais qui fonctionne merveilleusement bien et qui nous fait rire et qui nous fait avoir enfin, des émotions très fortes pour un manga. Donc, vraiment, il a sa place dans la collection Kiyun Senen. Il a sa place dans chacune des bibliothèques parce que c'est un titre de Yuko Osada et c'est un titre de Yuko Osada très particulier. Et en plus, la série est finie en 3 tomes, donc c'est une raison de plus de se jeter dessus.
J'ai juste une question à te
Oui?
poser par rapport à l'adaptation. Est-ce que du coup, c'est drôle en français ou pas?
Alors, l'adaptation est extrêmement réussite. La traduction
Réussite.
est réussie. Pardon. Et je ne suis pas traducteur ni
Ah,
adaptateur.
les mangas, ça embête, hein.
Ouais, et
Non,
méchant.
mais elle est vraiment réussie. Temps de pause.
C'est ça.
Ouais, c'est super bien adapté avec les bonnes références et on comprend tout. Enfin, c'est super clair. On n'a pas besoin de s'attarder à réfléchir. Sur tel ou tel truc, parce que tout est bien trouvé. C'est vraiment plus qu'un travail de traduction, c'est vraiment un super travail d'adaptation.
Juste pour terminer, du coup, par rapport à Kitaïluck, le tome numéro 1, les mangas de Yuko Asada qui ont notamment été édités, alors ça, au début je crois que c'était chez Doki Doki, ensuite chez Kiyun, n'ont jamais vraiment fonctionné en France, même
Ouais.
si un vrai, on le sait, chez Kiyun ils apprécient vraiment beaucoup ce que fait l'auteur. Et du
Ouais,
coup,
bah le Run des Burst avait été un échec assez cuisant et
ouais.
ils ont quand même retenté le pari.
Et voilà, du coup, je reviens à ça. Et du coup, ce que j'ai, moi, parce que moi, j'ai récupéré un. Ils ont fait des petits fascicules qui présentent les premiers chapitres. Hein, et je trouve ça pas mal, du coup, pour permettre aux gens de rentrer dans le manga. Parce qu'en plus, c'est pas forcément un des mangas les plus accessibles de sa part.
Ouais.
Et le fait de le mettre en valeur de cette façon-là, c'est peut-être une des bonnes façons, du coup, de faire découvrir l'auteur et
Pour
de.
moi, c'est pas ça qui va jouer ou pas, quoi.
Non mais
Parce que notamment le premier chapitre, finalement, ne montre pas ce qui est réellement le manga. C'est une
ah,
introduction,
mais tu as plus
ça.
t'as vraiment on va dire une quarantaine de pages du manga donc
Ouais, t'as tout le premier chapitre, mais c'est vraiment une introduction à la. C'est une mise en contexte. C'est-à-dire donc le personnage principal, sa copine qui s'est fait violer, qui veut plus sortir, et c'est tout ce qu'on a à peu près.
t'as une amorce à la fin, t'as une amorce quand même sur les.
Ouais, mais elle est légère comparée au thème vraiment du manga. Alors c'est bien qu'ils aient fait ce fascicule, hein, c'est très très bien, mais il me semble qu'ils avaient fait la même chose pour Run the Burst. Mais clairement, pour moi, c'est pas ça qui va faire apprécier le manga ou pas. C'est tous les retours qu'il peut y avoir là depuis qu'il est sorti. Il a vraiment de très très bons retours parce qu'à mon avis, il a surpris énormément de monde. Et c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas un. Ça sera plus par le bouche à oreille que par la présence de ces fascicules, même si c'est très bien parce que ça montre qu'il y a quand même une envie du côté de Kiyun de le mettre en avant.
Bah,
On
j'ai
s'en
trouvé
doutait pas, mais.
qu'il y avait moins de communication que d'habitude pour un titre Kiyun. Parce que j'en ai moins entendu parler.
Bah, c'est vrai que Kiyun, ils sont assez forts en général pour mettre en
Ouais,
avant
mais
leur
là,
manga
je...
et.
peut-être une impression. Hein, mais...
Tu dis par rapport aux autres titres Kiyun ou par rapport
Oui,
à d'autres films?
à
D'accord.
Kiyun, ouais. Parce que souvent, ils ont des grosses campagnes de pub partout,
Ouais.
sur tous les
Ouais,
sites.
mais c'est sur des trucs où ils sont. Enfin, on n'est jamais sûr,
Ouais,
mais
plus
c'est
accessible
sur
aussi.
des trucs plus accessibles
Ouais.
et plus. Enfin, où ils ont quand même des garanties autres.
Ouais.
Là, ils savent très bien que, de toute façon, c'est un auteur qui a jamais marché en France. Run the Burst avait eu beaucoup de succès critique,
Ouais.
mais il avait jamais décollé. Donc là, voilà, on va voir ce que ça a donné. Moi, j'espère qu'avec le bouche à oreille et avec toutes les très très bonnes critiques qu'il a depuis sa sortie, j'espère que les gens vont aller l'acheter. Mais voilà, j'ai un peu de mal à y croire, quoi, parce que c'est vraiment un truc très atypique.
Je vous propose de finir là-dessus sur Kid I Luck et de passer à la suite. Et notamment, on va pouvoir entendre Kurita
Oh.
sur Sakamoto pour vous servir. Donc, c'est édité chez Komiku et c'est dessiné par Nami Sano. Alors,
Oui.
qu'en as-tu pensé, Kurita? Explique-nous déjà
Bon,
l'histoire de départ.
enfin, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est vu que c'est une comédie avec des chapitres indépendants entre eux. Pour faire simple, c'est comme si les trois persos de Skate Dance étaient réunis en un seul. Et puissance 1000 en fait. Sakamoto, c'est un surhomme qui aide ses amis lycéens dans tout leur tracas quotidien, tout ça, mais d'une manière très classe, on va dire. Une manière très absurde. C'est très dur à décrire en fait. C'est très marrant, c'est très très marrant. Toon-toon.
Bah moi en fait je vais pas aller dans ton sens parce que
Ah.
j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Ouais, il y a ce côté skate dance et tout, mais le personnage en fait est très premier degré.
Oui, bah c'est ça.
Et c'est. Disons que en fait c'est une succession de situations qui sont assez absurdes, mais qui m'ont pas fait extrêmement rire en fait. J'en avais entendu extrêmement, enfin beaucoup de bien, notamment de ta part, Corita. Et ouais, je m'attendais à un truc plus ouf que ça. Là, c'est, enfin, j'ai trouvé que c'était juste un personnage qui est hallucinant parce qu'il sait tout faire. C'est le mec le plus gentil du monde. Il rend des services à tout le monde et en même temps, c'est peut-être le mec le plus fort du monde dans tous les domaines. Et c'est juste ça en fait. Et du coup, il est dans des situations où ouais, il rend service aux gens, mais il n'y a pas de truc complètement fou par rapport à ça. Et je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher et le dessin m'a pas vraiment aidé non plus. Je
Ouais, le
trouve
dessin est
que
assez spécial, je veux dire.
ouais, le design il est très très rigide
C'est les têtes des persos qui sont un peu étranges.
Ouais, je sais pas, il y a un truc qui fait que j'accroche pas à ce manga, quoi. Donc je suis un petit peu déçu de
J'ai
ce
déçu
côté-là.
la France.
Ouais, c'est ça. C'est de ta faute. C'est de ta faute.
Oh, c'est une série qui est terminée, qui est encore en cours au
C'est en
Japon?
cours. Les tomes mettent très longtemps à sortir au Japon, mais c'est le bouche à oreille que ça a eu au Japon, c'est assez fou.
Ouais, apparemment
Genre,
ça marche très très bien.
il y a presque pas de pub et ça vend à presque 1 million d'exemplaires chaque tome.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, c'est un gros succès qui est sorti de nulle part.
Ah oui. Très bien. On va pouvoir passer à la suite. Alors la suite, ça va être un petit tunnel pour Tuntun notamment. Tu vas nous parler de Daisy lycéenne à Fukushima.
C'est
Donc
vrai, j'avais mis ça.
c'est
Tu
édité.
l'as lu?
Là,
Ouais, je l'ai
t'en
lu.
souviens-tu?
C'est une
Surtout.
série en. C'est un shoujo en 2 tomes.
Donc c'est édité chez Akata et c'est
C'est
dessiné par
ça.
Reiko Momoshi.
C'est ça. Et ça raconte l'après-catastrophe de Fukushima du point de vue de cinq lycéennes, dont une particulièrement.
Qui s'appelle Daisy?
Non, Daisy,
Ah.
en fait, c'est le nom de ce groupe de lycéennes, puisqu'elles
Ah,
font
d'accord.
de la musique. Et en fait, j'ai adoré ce shoujo, parce que donc c'est à l'après Fukushima, mais c'est vraiment immédiat, quoi. C'est dans les 2 mois qui suivent que ça commence à se passer. Et donc, en fait, c'est basé. Ce qui est très particulier, c'est que l'auteur s'est déplacé à Fukushima et a recueilli en fait tout un tas de témoignages et les a intégrés dans ses personnages, dans son manga. Ce qui donne un côté très. Quand on sait ça, toutes les situations qu'on y trouve, ça donne quelque chose de particulier. On a l'impression d'être vraiment devant un témoignage important, quoi, parce qu'il y a des situations très difficiles par rapport à ça, sur à peu près tous les plans. Par exemple, la vie amoureuse de ces lycéennes, puisque il y en a une, par exemple, qui sortait avant avec un garçon qui venait de Tokyo et qui s'est fait larguer parce qu'il pensait qu'elle allait être radioactive et que voilà. Il y a les conséquences sur une jeune fille dont ses parents sont producteurs de riz et qui forcément ça a des conséquences sur leur production et la vente de ce riz. Et il y a plein de choses comme ça, donc c'est en 2 tomes. C'est merveilleusement écrit, les scènes, les dialogues sont vraiment très touchantes et très très bien écrites. Le dessin, bon, moi
Du shoujo.
ça reste du shojo
Mais je
et
regarde
c'est
là.
du pur shojo et c'est voilà, tous les codes graphiques qu'on peut y trouver et ce
Ouais, mais ça
qui.
fait shoujo, mais shoujo bas de gamme, hein, franchement. Parce qu'il y a mieux.
Non, 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 franchement, c'est.
Pas
Moi,
niveau
je.
dessin.
Enfin, en tout cas, je trouve ça, en dehors de ce que je disais, ces codes graphiques et cette mise en page un peu bordélique par moment,
Bordélique.
au niveau du dessin, moi, je le trouve vraiment très agréable. Les personnages, voilà, c'est du classique, mais ça passe très bien. Et le dessin remplit son office et c'est suffisant pour justement s'y intéresser et pour rentrer suffisamment dans l'histoire et profiter de peut-être le premier vrai grand témoignage de l'après Fukushima dans la pop culture, enfin voilà, dans la culture de manière générale.
C'est
Donc,
fini en 2 tomes ou ça
ouais,
continue?
c'est fini en 2 tomes.
Ah, d'accord. Très bien.
Tu
Prends
veux.
juste le slogan d'Akata pour le vendre, le premier shoujo post-Fukushima. C'est un peu.
Ouais,
Oui,
ça. Bah.
il faut bien accrocher le chaland, mais
Ouais, mais en même
c'est
temps,
bizarre.
c'est vrai que. Enfin.
Avec des lycéens à 3 bras et.
Ouais, je sais pas si on peut dire ça comme ça,
C'est un peu bizarre.
mais ouais, c'est vrai que c'est assez bizarre, mais en même temps,
C'est ce que c'est, mais.
c'est l'essence du truc, quoi. C'est
Oui.
vraiment un témoignage
Le marketing, mec.
de la situation. Mais ouais, mais vraiment, je le recommande à fond parce que c'est un truc à pas louper, quoi.
Commentaire de chaos.
Excusez-moi. On va passer à la suite. Tu vas nous parler rapidement, Tuntun, de la réédition de 20th Century Boys, donc dessinée par Naoki Urasawa et édité chez Panini Manga. Donc je t'écoute, nous t'écoutons religieusement.
Oh, moi je t'écoute pas.
Qu'est-ce qui. Alors j'imagine que l'histoire ne change pas, c'est
Il a
qu'est-ce
dû
qui.
rester sur les lycéennes à 3 bras, c'est pour ça.
Du coup, l'histoire ne
Oui,
change
non,
pas avant.
l'histoire ne change pas.
Nous sommes d'accord. C'est un peu bizarre.
L'histoire ne change pas. En fait, c'est une édition de luxe, entre guillemets. C'est Panini, ils aiment bien faire ça. C'est
Ouais,
que,
c'est
en fait,
édition de luxe
c'est
façon
une
Panini,
édition
quoi.
double. Voilà, c'est exactement ça.
C'est
C'est
un
une
peu dégueulasse.
édition double.
C'est qu'une des deux côtés.
Je vais reprendre, j'ai une édition double.
S'il te plaît.
Avec un format agrandi par rapport à l'original. Les couvertures sont remaniées, elles sont plutôt classe d'ailleurs, avec le traditionnel vernis sélectif. Elles sont toutes noires, avec juste des personnages sur le fond noir en couverture. Le papier est de qualité Panini, donc c'est-à-dire pas terrible, terrible. Bon, ils ont quand même fait un effort, je pense, par rapport à Happy, où je me souviens du fameux Planète de Luxe, le manga de Makoto Yukimura. Après Vinland Saga et qui avait un papier un peu dégueulasse. Là, il est un peu plus épais, donc plus agréable.
Il y a des pages couleurs.
Il n'y a pas de page couleur.
Oh.
Je vérifie sur le premier, mais sur le deuxième, il n'y en a pas. Et sur le premier, non, il n'y en a pas non plus.
Ah, c'est un peu dommage.
J'ai l'impression qu'ils font toujours un peu le service minimum sur les rééditions Panini.
C'est Panini, quoi.
Moi, sur City Hunter, ça va. Mais
Ouais.
je compare, excuse-moi, je compare juste par rapport à, ben, même si pour le coup, c'est pas une réédition, mais du côté japonais, ça l'était sur l'édition que nous, on a eue. De Master Keaton, donc chez Kana, où t'as vraiment un. Bah on va dire, là encore, t'as le vernis sélectif, t'as des pages couleurs.
Ouais, mais bon, Kana, c'est autre chose, hein.
Ouais, bien sûr, non, mais.
Ah, surtout sur leur collection grand format comme
Ah
ça, où
oui.
ils font vraiment du gros travail. Après, Panini a le mérite de le proposer, quoi. Déjà, c'est pas
Oui,
mal.
c'est vrai, ça. Pas craché dans la soupe.
Surtout que moi j'étais,
Oui, bien
enfin,
sûr.
j'avais pas, je possédais pas la première édition.
Quoi? Quoi? Qu'est-ce que... Quoi?
Oui, je ne possédais pas la première édition. Et du coup, bah, c'est quand même assez plaisant de les retrouver en grand format comme ça. Surtout que, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que, comme tous les autres mangas d'Urasawa qui sont réédités dans des formats plus grands, etc., il a retravaillé certaines planches, certaines mises en scène. Et d'ailleurs, il y a des super comparatifs sur le site La Base Secrète. La référence francophone sur Urasawa.
Absolument.
Et du coup, il y a quelques retravails importants. Et voilà. Et sinon, dans l'ensemble, ça reste. Enfin, c'est pas une édition de luxe, clairement, mais ça reste une édition de qualité plutôt correcte.
C'est une édition plus que du luxe, c'est une édition grand format en fait.
Ouais, c'est ça. C'est une édition double grand format. Voilà, c'est déjà pas mal.
Parce que ça reste une bonne histoire pour
Bah
ceux
oui,
notamment
ça reste une très bonne histoire.
qui apprécient le travail de Naoki Urasawa, excusez-moi. Alors on va passer à la suite, on va sortir du domaine du manga. Je vais te redonner encore la parole, Antoine, Tuntun, pardon. Tu vas nous parler de Porcelaine, hein. Explique-nous tout ça, c'est édité chez Delcourt. Alors je
C'est
crois que c'est
ça.
dessiné par Benjamin Reed sur une idée originale de Chris Wilgoose.
C'est ça, qui sont deux membres d'un collectif anglais qui s'appelle Improper Books. Et c'est donc un comics qui sera en, si je ne dis pas de bêtises, trois tomes, dont on a aperçu de la couverture du tome 2 à la fin du premier tome. Et en fait, donc ça raconte l'histoire d'une gamine, d'ailleurs, c'est le titre de ce premier volume. C'est une gamine pauvre qui vit dans la rue avec un autre groupe d'enfants et qui un jour décide, est poussée par le groupe d'enfants justement, à passer les murs d'une grande maison qu'il pense appartenir à un sorcier. Et donc elle passe les murs de cette maison et tandis que le groupe d'enfants se fait alpaguer par des policiers parce qu'ils n'ont pas respecté le couvre-feu. Elle finit dans la maison et se fait rattraper par le propriétaire qui est un grand monsieur noir, fort, et qui a des chiens avec une grosse barbe et qui a des chiens en porcelaine. Et en fait, on découvre que ce type, en traçant des runes sur de la porcelaine, les fait vivre et donc s'en sert comme serviteur et comme chien de garde, etc. Et donc en fait, il va la prendre sous son aile il va décider de donc il la garde avec elle dans sa maison et en quelque sorte il va devenir son père adoptif qui est puisque elle est la fille qui l'a jamais eue puisque sa femme est décédée un an plus tôt dans des circonstances qu'on ne connaît pas trop. Et donc il y a toute une histoire qui va se faire autour de la relation de ces deux personnages et autour de la façon de faire vivre la porcelaine. C'est superbement dessiné, c'est vraiment très très beau. Il y a tout ce travail justement sur le contraste entre la porcelaine et l'univers environnant, dont notamment en fait la maison et le jardin, puisque on n'en sort que très peu, puisqu'il va la protéger du monde extérieur, on va dire. Et du coup, il y a un contraste qui se fait entre tout ce monde-là et la porcelaine, qui paraît très pure, etc., et qui en fait cache quelques secrets pas forcément avouables. Et voilà, c'est super intéressant à lire. L'évolution de la relation entre ce père adoptif et cette gamine qui a gardé un peu des manières de sa vie d'avant, et qui d'un coup se retrouve, elle qui vivait au milieu de gamins de son âge, quasiment de son âge, et toujours entourée. Va finir par se retrouver du coup un peu seul au milieu de cette grande maison et de ces êtres sans vie en porcelaine. Et du coup, il y a toute cette relation autour des deux personnages qui est super intéressante, qui se développe. Et ce cliffhanger, enfin ce cliffhanger, ce twist à la fin, et cette montée en puissance tout du long et ce twist à la fin qui nous fait attendre impatiemment le tome 2 et qui fait que c'est un très très bon premier volume.
On sait en combien de tomes ça va être ou pas du tout?
Il me semble avoir lu 3, mais alors je suis pas sûr du tout. En tout cas, il y a le tome 2 qui est annoncé et voilà. Pour
Sortira quand du
l'instant,
coup le tome 2?
le tome 2, on ne sait pas.
D'accord.
Il y a juste un aperçu de la couverture à la fin.
Ah d'accord, non, ok, ça marche. Bon bah du coup voilà, on va terminer d'ailleurs cette première rubrique du premier tome, des premiers tomes qu'on a pu lire de nouvelles séries, en redonnant la parole à Kurita sur Food Wars, sous-titré Shokugeki no Soma.
Oui.
C'est dessiné par Shunsaki et au scénario on retrouve Yuto Tsukuda et c'est édité chez Tonkam.
Tout à fait. Alors, Food Wars, bah, vu le nom, je pense qu'on peut se douter de quoi ça va parler. Ça va parler
De guerre.
De
Oui.
guerre de nourriture.
Tout à fait.
Yeah.
Qu'en fait, on va suivre
Ça se
les
passe
hommes.
dans une cantine. Ils se balancent des nouilles.
C'est un autre truc dont on ne va pas parler.
Cantine royale.
Bon, je peux parler.
Une question de la parole. Tu as le droit.
Je vais être très court de toute façon. En gros, on va suivre les aventures de Soma, donc un jeune apprenti cuisinier qui rêve de devenir aussi bon que son père, qui est aussi cuisinier de son état, et qui va donc se retrouver dans une école, genre l'école la plus grande du monde, avec des cuistots du monde entier qui veulent participer, tout ça. Et pour survivre dans cette école, il faut en fait affronter les autres élèves dans des combats de cuisine. Tout ça. Un peu comme dans Iron Chef, des trucs comme ça.
Enfin,
C'est pas un manga du Jump, ça?
Si, si. C'est assez populaire d'ailleurs, hein, en ce moment. Et je tiens à vous dire tout de suite que le gars qui dessine faisait du hentai avant.
Oui.
Et
Ouais, j'ai vu
ça
des
se voit.
tentacules.
Ça se voit. On va dire qu'il y a des tentacules, des boobs, des plans culottes très gratuits. Parce qu'en
Apparemment,
fait.
ça se calme par la suite.
En fait, ça, il y a toujours des réactions un peu abusées,
Tu veux dire
mais.
qu'il y a des recettes à base de poulpe?
Oui, c'est vraiment plus. Hein. On va dire que un des points forts, entre guillemets, hein, du manga, c'est que les réactions des gens quand ils mangent sont super abusées et très 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 imagées. Donc,
much.
par exemple, une fille qui mange du poulpe, c'est tellement bon qu'elle se sent prise par un calamar géant, un poulpe géant, qui lui enlève ses habits. Voilà, faut pas avoir peur du fanservice. Mais le fanservice est assez équilibré entre les filles et les mecs, donc je laisse passer. Ça me choque pas trop.
Enfin, oui, vas-y, vas-y, excuse-moi.
En tout cas, c'est assez marrant quand même. Il y a pas mal d'humour, ça se prend pas au sérieux, hein, encore heureux.
Heureusement.
Oui, parce
Heureusement.
que c'est assez bien dessiné quand même. Faut aimer le style, c'est assez simple, c'est du jump, hein, donc c'est pas super magnifique, mais c'est pas dégueu. Et les plats sont vachement bien dessinés quand même. C'est
Oui.
un des points forts.
Il y a des enjeux quand même qui vont être importants ou c'est juste être
Être
le
le
meilleur?
meilleur.
Bah c'est du shonen, hein, c'est du neketsu, faut être le meilleur, faut battre tout le monde.
Ouais, ça me fait un peu penser dans l'esprit, enfin de ce que j'ai pu en voir, il y a Kitate Japan un peu.
Oui, un peu. Bah, je sais pas s'il y aura des démons après et tout, mais
Ouais,
espérons.
dans la première partie d'Iekitate, on va dire.
Voilà.
Personnellement, moi, la meilleure épreuve de cuisine que j'ai pu voir, c'était dans Hunter x Hunter
Oui, c'est vrai.
où ils doivent plonger comment dire, dans une crevasse pour récupérer des œufs,
Oui,
ce qui était
c'était génial.
assez très bien même, tout à fait.
Et
Donc,
petite note,
oui.
Food Wars est fait en collaboration avec une femme qui s'appelle Yuki Morisaki, qui au Japon est une chef et top modèle à la fois. Donc voilà, elle donne des conseils de cuisine, mais peut-être pour dessiner aussi les formes. Hein.
On l'a de
peut-être pas
poulpe, vous
vu en
êtes
soi.
averti. Et donc voilà, bah on a terminé du coup avec cet appétissant dernier tome sur cette première partie consacrée aux nouvelles séries que l'on a découvertes. Du coup,
Découverte.
découverte, excuse-moi, oh là là. Pff. Une réussite totale. On va finir. Du coup, on va continuer maintenant avec les fins de série. On a un tome, justement, une série qui se termine que tu as lu, notamment Toon Toon, qui s'appelle Wet Moon, et donc ça se termine avec le tome 3. Donc c'est dessiné par Atsushi Kaneko et c'est édité chez Casterman. Alors, du coup, par rapport à cette série-là, quel est ton point de vue sur l'intégralité de la série? Est-ce que les trois tomes sont finalement bien dans l'ensemble? Est-ce que l'histoire passe bien du coup
C'est excellent. Par contre, il faut que je les relise. Il faut que je relise depuis le début parce que, en fait, c'est un polar très très noir et une enquête un peu qui avec beaucoup de sauts dans le temps et de. En fait, ça joue énormément sur le temps justement parce qu'il y a des histoires de voyages temporels, etc. Et du coup, en fait, tout au long du premier, du deuxième et même au début, enfin dans le courant du troisième tome, il y a plein d'indices qui sont laissés, côté desquels on passe assez facilement. Et en fait, au vu du dénouement et de ce qu'on apprend dans ce tome 3 qui est très très riche en informations, on se rend compte justement qu'on est passé à côté de plein de petits indices et du coup on a très envie de relire les trois tomes, donc ce que je vais faire assez rapidement. Mais en tout cas, c'est une excellente série, un vrai très bon polar avec des dessins moitié comics à moitié manga avec un ancrage assez génial. Et qui fait que Kaneko, encore une fois, c'est un monstre, quoi. Il est absolument génial. Et il faut acheter tout ce qu'il fait parce que c'est très, 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 très bien.
Très bien, c'est tout? Donc,
Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise de
bah,
plus?
ce qu'on peut faire, si tu veux, c'est
Non,
qu'on.
c'est. Enfin, ce que je peux dire, c'est que, voilà, c'est un truc très, très dense, assez. Enfin, qui donne, c'est un très gros pavé, une grosse lecture. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a des références assez particulières, enfin, beaucoup de références américaines aux comics, à la culture américaine, etc. Il y a énormément de choses en fait. Kaneko dit beaucoup de choses, mais il faut il, en fait ça se fait en plusieurs lectures. Il y a vraiment plusieurs lectures je pense pour bien comprendre ce qui est Wet Moon.
Ok, très bien. Donc tu conseilles, d'après ce que j'ai compris,
Oui.
sur cette série, notamment éditée chez Casterman.
Oui.
Alors, avant de continuer sur les séries en cours, dont on va retrouver notamment Space Brothers, Bonne Nuit Poun Poun, Steel Ball Run, etc. Je vais revenir rapidement sur le festival de bande dessinée Quai des Bulles qui s'est déroulé, qui se déroule toujours d'ailleurs à l'heure où on enregistre, du côté de Saint-Malo, puisque ça a lieu du 10 au 12 octobre. Alors, par rapport à d'habitude, en fait, avant de revenir sur le festival en lui-même, faut savoir que ça a été décalé en fait. D'habitude, ça se déroule plutôt à la Toussaint, mais tous les 4 ans, en même temps, vous avez ce qu'on appelle la Route du Rhum. Donc, c'est un événement assez même très important, notamment pour la ville de Saint-Malo. Et du coup, pour qu'il n'y ait pas, on va dire, un parasitage entre les deux événements, du coup, du coup, le festival Quai des Bulles a été avancé de 15 jours. Alors du coup, ça va peut-être avoir une incidence notamment sur l'affluence, puisque évidemment, les gens sont sûrement plus propices à aller au festival durant les vacances, notamment pour les enfants. Mais du coup, voilà, moi j'ai eu l'occasion d'y aller sur la première journée, la journée du vendredi, et forcément, donc l'affluence était moindre, mis à part les furies de bande dessinée, mis à part les scolaires aussi, parce qu'il y avait beaucoup de scolaires sur cette première journée. Alors, comme à chaque fois, hein, le festival se sépare en plusieurs parties. Vous avez alors notamment la partie exposition. Il y a pas mal d'expositions. Alors, aussi bien sur le bâtiment principal que sur ce qu'on appelle Intramuros, donc la vieille ville de Saint-Malo, ce qui est plutôt intéressant parce que du coup ils font participer un peu toute la ville à cet événement-là. Alors notamment on pouvait retrouver un des trolls de Troie au pied des remparts, donc dans une statue 1 sur 1, donc c'était assez impressionnant. Après on a retrouvé vraiment pas mal de thèmes différents. Il y avait la guerre 14-18, il y avait aussi Jean-Claude Mézières, donc notamment le dessinateur que l'on connaît pour son travail sur Valérian et Laureline, pardon, mais qui a également travaillé, ça du coup j'ai découvert aussi pendant l'exposition, sur les travaux préparatoires pour le cinquième élément. Donc on retrouve vraiment beaucoup d'idées à l'écran, entre même des différences, mais entre ce qui a été dessiné et ce qu'on retrouve au final. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi une exposition sur le comics à la française. Alors ça date des années 80, parce que de toute façon l'exposition était titrée Photonique et Micros, donc ce sont deux héros qui ont été inventés en France, super-héros made in France des années 80. Donc franchement, je connaissais pas du tout cette partie-là, on va dire, de l'histoire de la bande dessinée, du comics en général. Le dessin est vraiment vraiment très bien. Alors c'est daté, hein, pour les années 80, par rapport à aujourd'hui évidemment, mais j'étais assez surpris par rapport à ce qui avait été fait, notamment par rapport au travail des auteurs. On retrouvait notamment un Spider-Man qui était redessiné, qui faisait une des couvertures des magazines de l'époque. On retrouve évidemment toute la partie Strange, le magazine français tourné vers le comics à l'époque. Il y avait on retrouve les points des versions aussi de Serval avant que Wolverine ne soit le nom obligatoirement donné pour toutes les éditions dans le monde. Donc vraiment une édition en termes d'exposition qui était assez, comme à chaque fois d'ailleurs, hein, les sujets sont vraiment variés et on touche de tout. On va parler également de la. Il y avait également on revenait sur les 15 ans d'une maison d'édition québécoise. Je vais vous retrouver le nom, la Pastèque, voilà. Qu'on connaît notamment pour la série des Pôles, qui, voilà, notamment ceux qui s'intéressent à la bande dessinée savent de quoi je peux parler, qui avait notamment eu un prix à Angoulême, donc ce qui n'est pas rien. Et voilà, beaucoup de choses à voir, hein. Évidemment, il y avait toute la partie stand et dédicaces qui était disponible aussi pour le plus grand nombre. Pour tout le monde d'ailleurs, avec les principaux éditeurs, on retrouvait évidemment du Glénat, du Delcourt, parmi les plus importants. À la différence de d'habitude, l'année dernière, par rapport à l'année dernière, il n'y a plus Ankama, parce que de toute façon Ankama a bien précisé qu'il ralentissait, même qu'ils arrêtaient pour l'instant de faire tout ce qui était événements, festivals de bande dessinée ou ou même Japan Expo l'année prochaine, ils vont vraiment beaucoup, énormément restreindre cette partie-là sur, en termes d'activité. Et puis après, à côté, évidemment, des petits éditeurs qu'on connaît moins, et ce qui nous permet aussi de découvrir, et pour tous les gens qui sont présents, de découvrir des auteurs qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir dans les grandes surfaces, dans les magasins spécialisés sur la bande dessinée. Alors moi je vais revenir sur plusieurs petites choses. Alors j'ai eu la chance du coup par rapport au fait qu'on soit vendredi de pas être trop embêté pour les dédicaces que je voulais faire ou que j'ai eu l'envie de faire en découvrant le travail des auteurs. J'ai notamment, alors même si j'avais déjà eu l'occasion de me faire dédicacer un ouvrage, j'ai pu voir assez rapidement, puisque l'auteur notamment de La Balade de Yaya aux éditions Fei, donc Golo Zhao, qui est un dessin proche, forcément quand on voit le dessin on peut pas s'empêcher de le rapprocher des productions Ghibli, de ce qu'a pu faire Hayao Miyazaki aussi en son temps. Et du coup voilà, c'est un auteur qui était extrêmement facile d'approche. Le stand n'était pas forcément bien situé, ce qui a fait, ce qui a pu donner aussi, ce qui a pu empêcher peut-être les gens de le trouver rapidement et que les gens arrivent en nombre sur le stand. Mais voilà, dans l'absolu, après, il n'y avait pas non plus, à part quelques points importants, il n'y avait pas non plus comment dire, des files d'attente très très importantes sur les auteurs. Mais là encore, on est sur une journée du vendredi qui est forcément un jour de semaine, donc forcément avec une influence moindre par rapport au samedi, voire au dimanche. J'aimerais revenir ensuite, je reviens assez rapidement aussi sur une petite maison d'édition qui m'a été conseillée par Toontoon, qui s'appelle Sandawe, qui est une maison d'édition belge. Qui est assez original dans son principe de fonctionnement, puisque c'est une édition qui fonctionne par le biais du financement participatif, hein, sur tous les projets qu'elle met en place. Après, évidemment, une fois que le projet est validé, elle apporte son métier, son savoir-faire sur l'édition, sur l'impression, l'édition et la distribution des ouvrages qui ont été financés à 100%, voire plus. À la différence de ce qu'on peut trouver, alors notamment sur les sites extrêmement connus, que ce soit du côté français comme Ulule, comme My Imagineer Company, ou du côté américain, voire international comme Kickstarter, on est ici sur des durées de financement qui sont extrêmement longues, bon, beaucoup plus longues que ce qu'on peut trouver habituellement, parce qu'on est sur des durées de 12 mois. Ce qui montre bien qu'il y a vraiment un travail aussi qui est très 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 très, très important à ce niveau-là, parce que on n'est pas uniquement là pour dire, voilà, j'ai tel projet, je veux faire telle chose. Il y a vraiment, bon, comme le principe, évidemment, de chaque site de financement participatif, pardon, mais il y a vraiment le souci, du coup, qu'il y ait un dialogue, un échange entre les investisseurs, entre guillemets, et l'auteur. Donc, il y a même, moi, pour avoir dédicacé, pour avoir discuté avec un auteur, notamment Xavier, sur la bande dessinée Toxic Boy. C'est vraiment une des choses qu'il a mis en avant par rapport à son travail. C'est-à-dire il y avait vraiment ce retour que les auteurs n'ont pas forcément, les auteurs, on va dire, de façon traditionnelle, n'ont les retours des lecteurs, à la limite, que quand ils les voient en festival, quand ils vont dédicacer leur bande dessinée, mais pas avant. Et du coup, là, il y a aussi une manière de voir ce qui peut fonctionner, ce qui peut moins fonctionner, vers quelle direction il serait peut-être mieux d'aller pour toucher un maximum de monde. Mais
C'est surtout ce qui est important pour avoir pas mal suivi ce qui se passe sur Sandaway, c'est que les projets qui se font financer, tout simplement, c'est les auteurs qui sont le plus présents pendant le enfin le durant le durant la période de financement, en fait. Tu prends l'exemple de Xavier, et c'est certainement le meilleur exemple parce que il a passé, enfin, régulièrement, très régulièrement, il offrait des dessins, par exemple, à des paliers de 10%, il offrait des dessins par tirage au sort. Il a fait un jeu d'aventure avec les participants, et du coup, il y a eu une vraie interaction avec les éventuels financeurs. Et ce qu'on remarque justement, c'est que pour qu'il se fasse financer, faut vraiment qu'il soit impliqué et qu'il soit proche bah, ce qu'on appelle, enfin ce qu'ils appellent les Edinotes. Et je juste du coup je repense à un truc, c'est que tout à l'heure tu as dit qu'il y avait donc un point très important, c'est que il y a cette période de financement sur 12 mois. L'autre point très important aussi, c'est que les Edinotes, donc ceux qui participent au financement, touchent une part
Oui,
des revenus.
absolument. Sur 5 ans.
Voilà, ce qui est absolument pas le cas évidemment
Oui.
de toutes les autres plateformes, et ce qui fait qu'on est on devient éditeur réellement particulier de l'œuvre. Et du coup, forcément, on accède aussi à des moyens de promotion, et du coup, on devient aussi promoteur de l'œuvre.
Exactement. Voilà, c'est pour ça que je parlais moi du côté notamment des investisseurs, parce que l'investisseur aussi peut attendre de un retour sur investissement, même si là dans le domaine de la culture c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus incertain que dans d'autres domaines d'activité. Alors en plus voilà, pour revenir aussi sur la sur ce dessinateur hein, Xavier, sur sa bande dessinée Toxic Bug, donc il a un parcours assez, pour avoir discuté avec lui, il a un parcours assez singulier puisque où il avait d'abord connu une édition chez Delcourt, un 3 tomes qui avait été pardon édité dans cette chez cette maison d'édition. Après quoi, il avait fait un projet dessiné un projet chez Soleil, mais qui n'a jamais été édité. Ensuite, il est parti lui sur son projet Toxic Boy, en allant voir notamment différentes maisons d'édition. Et notamment Ankama, parce qu'on va dire c'est vraiment le genre de format qui convient, que Ankama a déjà édité, hein, du noir et blanc, un format qui peut se rapprocher un peu du manga au niveau de la. Bah, notamment du fait que ce soit noir et blanc, par rapport à la taille du livre, par rapport au trait, au dessin, voilà, il y a beaucoup d'influences mélangées du comics, du manga et de la bande dessinée en général. Et du coup, le problème, c'est que Ankama, il y a une restructuration, on va dire, du pôle bande dessinée, et que forcément, son projet, en tout cas son projet de bande dessinée qui était quasiment terminé, a été un peu, a été jeté, il n'a pas été continué, il n'a pas été jusqu'à la phase définitive de l'édition et de la distribution. Et c'est pour ça après, c'est pour ça donc qu'il s'est retrouvé chez Sendaway. Et donc du coup qu'il a pu trouver un relais pour que sa bande dessinée soit autre chose qu'un projet qui restait sans véritable fin. Donc du coup c'est un projet qui est prévu en 4 tomes. Le deuxième tome, je crois, est déjà
Ouais.
financé.
Mais ils ont lancé le financement il y a peut-être une semaine, un truc comme ça. Mais
C'est
il
en
est
bonne
bien
voie.
parti pour être financé
Ouais.
rapidement, on va dire.
Et il est aussi connu, alors du coup j'ai beaucoup rigolé pendant qu'il faisait mon dessin, parce que ma dédicace, pardon, parce qu'il fait également un blog, alors j'ai plus le nom du blog exactement en
Sticky
tête.
Pants.
Alors la bande dessinée c'est Sticky Pants, mais
Et le blog aussi.
le blog c'est pas le licra sacole.blog. Enfin
Bah
bref.
du coup, tu me mets le doute.
Tapez Sticky Pants sur internet, vous trouverez en gros c'est de la caricature, notamment le droit à la caricature qui permet ça. Et c'est des héros de comics de chez DC, de chez Marvel qui sont un peu triturés dans tous les sens. C'est extrêmement drôle. On mettra le lien d'ailleurs sur Podcastination sur le WordPress. Et c'était très très drôle et même plutôt marrant. Et surtout, je rebondis un peu sur ce que je disais au début, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de fréquentes, il n'y avait pas beaucoup de monde sur cette première journée du festival. Ça a permis aussi du coup de prendre du temps et de pouvoir discuter à l'aise avec les dessinateurs, et notamment avec Xavier, qui était plutôt très intéressant, même dans ce qu'il disait, et voilà, sans langue de bois aucune. Sur un peu tous les sujets qu'on a pu aborder le temps de la dédicace. Donc voilà, donc juste pour terminer, Quai des Bulles, c'est toujours une bonne expérience. Toujours une bonne expérience. De toute façon, voilà, à ce niveau-là, on va pas se plaindre d'un festival de bande dessinée qui est à moins d'une demi-heure de chez soi et qui fait partie des moments, je dirais, incontournables de l'année, notamment sur la Bretagne et sur la ville de Saint-Malo. Voilà. Donc voilà, donc si vous voulez venir, messieurs, ben, cette année ça va être peut-être un petit peu juste, mais en tout cas l'année prochaine, ce sera avec grand plaisir de pouvoir partager avec vous ce week-end fort agréable. Et ben on va
Tu
continuer
nous
avec.
accueilles chez
Oui,
toi?
mais bien sûr, moi comme
Ouais.
à bras ouverts, en futon à bras ouverts. Nous allons continuer, messieurs, s'il vous plaît, sur les séries en cours. Donc après ce petit intermède lié à l'actualité, notamment, alors là on va revenir assez rapidement sur les séries qu'on a pu évoquer dans les anciennes émissions, parce que finalement, mis à part des grands chamboulements d'un point de vue scénaristique, il n'y a pas énormément d'évolution sauf cas exceptionnel sur les tomes qu'on a pu lire. Donc on va commencer rapidement, alors avec Space Brothers 7, que nous avons lu tous les deux, Romain. Tu n'as pas lu Kurita?
Non, j'ai du retard.
Donc c'est toujours dessiné par Shuya Koyama et c'est édité chez Pika Édition. Alors là c'est un peu le tome, on va dire, ce qui va un peu me faire mentir par rapport au pitch qui précède cette présentation. Le fait est que là on est sur un des tomes qu'on attendait un peu tous, hein, notamment par rapport à l'histoire, hein, puisqu'on a enfin le décollage d'une certaine fusée, on dira pas. On gardera un peu de suspense pour ceux qui veulent lire, notamment Dende, si elle écoute ce podcast en retard, et qui lit évidemment Space Brothers 7 en retard. Donc c'est ouais, un peu l'accomplissement pour un des personnages depuis le temps qu'il attendait ça. Et on va suivre le décollage et l'alunissage le temps de ce tome 7. Toujours, bah, personnellement, voilà. Je suis toujours assez fan de Space Brothers, de son esprit un peu décalé par rapport à je ne sais plus comment s'appelle le personnage principal. J'ai un trou de mémoire, je suis désolé. Ne m'aide pas
Namba.
Antoine. Mouta, voilà. Merci beaucoup.
De rien.
qui est toujours, on va dire.
Ça m'a fait plaisir.
Je compterai sur toi aussi la prochaine fois, c'est cool. Voilà, même voilà, Muta, son frère, sont toujours un peu décalés, une façon de penser qui est toujours assez originale, mais qui permet aussi de retomber sur ses pieds. Et c'est toujours très très drôle. Et voilà. Après le dessin reste toujours un petit peu un chouïa en dessous de ce qu'on pourrait espérer. Même si j'ai tendance à dire qu'il s'améliore par rapport au premier tome, ça s'améliore toujours un peu plus. Mais voilà, ça reste toujours de la bonne lecture. Alors, à titre personnel, j'ai notamment fait découvrir à des amis qui sont tombés assez fans de l'histoire, donc ça fait plutôt plaisir, surtout des personnes qui sont pas forcément habituées à lire des mangas, donc voilà, je vous conseille toujours de le lire autant. Toon, du coup, qu'en as-tu pensé, si tu t'en souviens?
Moi j'ai kiffé comme d'hab. Je m'en souviens vaguement.
Parfait.
Non mais c'est cool parce que là on commence vraiment à aller dans l'espace avec eux et ça avance bien et bah, c'est toujours super agréable à lire. Les personnages sont super et voilà, je kiffe.
Parfait. Donc en espérant que Kurita rattrape son retard
Ouais.
d'ici là.
Ben, pour parler de Space Brothers,
Oui.
je suis allé au Japon cet été, donc, et à Kyoto, je suis allé à une
Comment
exposition
tu
Space
l'appelais?
Brothers.
Bocos.
Et oui,
Bocos.
une très belle exposition consacrée au manga, l'animé Space Brothers.
Du coup,
C'était.
il y avait quoi? Il y avait des productions,
Il y avait des planches couleurs, toutes
Ouais.
les planches couleurs en fait, en très grand format. On avait des photos d'instruments liés à l'espace, puis dessinés par l'auteur, des trucs comme ça. C'était franchement intéressant.
Est-ce qu'il y avait une partie éducative? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une partie où ils présentaient
Oui, ça présentait le travail de l'agence spatiale japonaise, des trucs comme
l'AJAXA?
ça. Ouais. Il y avait des combinaisons de cosmonautes,
La classe.
et j'ai acheté un artbook.
Beau gosse.
Hé
Tu t'es regardé dans le scaphandre ou pas?
Oui. Attends, je suis obligé.
Normal. Et ben voilà, on est toujours aussi fan de ce que fait Shuya
Kurita.
Koyama notamment, et sur cette série Space Brothers.
Et beaucoup d'enfants à l'exposition.
Ah,
Je pense que
dont
Space
toi.
Brothers, c'est un seinen, mais les enfants peuvent le lire, hein,
Ah oui, sans problème.
Ah
Sans
bah
souci.
clairement, ouais.
Ça donne envie d'aller dans l'espace, c'est bien.
Exactement. Ça va, je
C'est
pense,
là
ça va nourrir
où.
des vocations. Et puis,
Oui.
on parle d'un seinen, ça n'a pas empêché notamment Pika de faire un partenariat avec le CNRS, si je dis pas de
Oui,
bêtises.
c'est vrai. Oui.
avec sur certains tomes un petit livre explicatif plutôt bien
Non, mais
fait.
c'est là où on voit que les classifications
Oui,
d'âge,
ça veut rien dire au final.
Oui.
c'est pas. C'est vraiment pour dire on fait une collection pour telle ou telle tranche,
Ouais.
mais au final, on s'en fout un peu, quoi.
Ça peut parler à tous, hein. Exactement. Skate Dance 12. Alors, on l'a lu tous les deux encore une fois avec Toontoon.
Il
Bah, je
y
vais te
en
laisser.
a qui étaient au Japon et qui dépensaient leur argent autrement.
Exactement. À faire des photos ou acheter des artbooks. Moi, j'aimerais juste dire une chose sur Skate Dance 12. Alors, c'est toujours si bien. Et j'aimerais juste dire un grand bravo à l'adaptateur qui m'avait déjà assez soufflé sur des tomes précédents, mais qui, là, sur notamment la mission 106, Panique au Club des Condés, a fait un travail assez fantastique, je trouve. Ça a dû être une torture, j'imagine, pour lui
Ça a dû être bien galère, ouais.
sur des expressions un peu tirées par les cheveux et qu'il a réussi à franciser pour être un tant soit peu lisible, dira-t-on. Et c'est vraiment, voilà, le reste est toujours aussi bien. Ça mélange toujours des phases sérieuses avec des phases loufoques. Le dessin, pardon, est toujours aussi bien, même si voilà, on sent toujours la patte de l'assistant, de l'ancien assistant de l'auteur de Gintama, je trouve. Et voilà, je voulais juste mettre en avant cette partie-là sur l'adaptation qui est vraiment bien faite et qui mérite d'être saluée à ce niveau-là. Une chose à rajouter, Antoine? Toon-toon?
Ouais, moi je l'ai trouvé un poil en dessous d'habitude, mais ce que je trouve fort, c'est que même dans un manga très drôle et énormément basé sur le comique, il arrive à faire des scènes et des chapitres très touchants, et je le trouve très bon dans ce registre-là aussi. Donc voilà, c'est cool.
Et ce qui est vachement bien, je trouve, toujours avec ce manga-là, c'est que une fois un chapitre terminé, il y a l'explication de pourquoi il a voulu faire ça. Et
Ça, ouais, c'est pas mal.
il y a toujours ce petit making-of qui est vraiment toujours sympathique à lire. Hein.
C'est vrai.
Alors, je vais quand même donner la parole à Kurita. On va essayer d'alterner
Ouais.
les prises de parole.
Qui va nous parler de J-Music?
Oui, non, non, non. C'est pas la bonne émission et c'est pas le bon moment surtout. Alors vous allez parler, de toute façon c'est avec ce sera souvent en duo. Toontoon a lu beaucoup de choses, donc
Il est tout. Il est tout.
soit c'est bah il y en a qui
Moi,
peuvent
j'ai
aller
pas
au
de vie.
Japon, il y en a qui peuvent s'acheter des mangas et des comics. Alors vous allez parler tous les deux, notamment de Steel Ball Run 9 et 10, donc de Hirohiko Araki, donc ça fait toujours partie de la nébuleuse de la galaxie
L'éternelle saga.
JoJo's Bizarre Adventure. Et c'est édité chez Tonkam, toujours pour le prix de 6,99€. C'est important, le 99. Je vous laisse en parler, messieurs. Est-ce que c'est aussi bien? Est-ce que ça c'est aussi dynamique qu'avant? Voilà, je veux
Oui.
tout savoir.
Oui, c'est toujours bien. Et d'après moi, ces deux tomes, ça marque un peu un tournant dans l'histoire où
Je suis d'accord.
la trame principale rejoint la trame secondaire avec le gouvernement, le président un peu corrompu et tout. Et les personnages principaux, donc Gyro et Jonathan, sont enfin impliqués dans tout le complot un peu au-dessus de la course, les vraies intentions du président, pourquoi il organisait la course, tout ça. C'est très bien, très très bien.
Toon
Ça m'a perturbé la façon dont Kurita a dit ça,
Très bien.
mais ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que on délaisse un peu la course,
Ouais.
pas tout à fait, parce qu'il y a encore, on prend encore vachement en compte le classement, etc. Mais il y a toute l'intrigue justement autour de ce qui fait le sel de Jojo depuis plusieurs parties, c'est-à-dire les pouvoirs, les stands, etc.
Morceau du cadavre.
Et voilà. Et du coup, ouais, ça devient de plus en plus intéressant. Et voilà. Et puis c'est toujours cool. Les bastons, elles sont super cool.
Un peu
Et
compliqué à comprendre, mais
ouais,
c'est intelligent
c'est
en
vraiment de
fait.
la réflexion.
Ouais.
Enfin, c'est très très poussé, quoi.
En fait, souvent dans les trucs de baston, on se plaint que les persos expliquent tout ce qu'ils font, mais dans JoJo, c'est obligé. Tu comprends pas ce qui se passe, sinon.
C'est clair.
Après, il a un travail, l'auteur. Moi, je me souviens des premiers tomes. Alors, c'était pas Steel, il y a aussi Steel Ball Run, mais La série qui était éditée en même temps, j'ai oublié le nom, où en fait on voit toujours un travail.
Stardust Crusaders?
C'est ça, ouais, merci.
Mmh.
Où il y a
C'est
toujours un
fini
travail.
au mois de juin, d'ailleurs, juillet.
Ouais.
Il
Enfin!
y a toujours un travail assez impressionnant, je trouve, sur la perspective des cases.
Ouais. Ah
Et
oui, c'est bien foutu, ouais.
c'est
Il a
assez.
des angles à chaque fois, qui
Ouais,
sont
c'est
assez
ça.
fous, ouais.
On se demande où il va chercher tout ça, quoi.
Il n'y a que lui qui peut faire ça. Un autre auteur, tu comprendrais pas.
En restant un tant soit peu lisible en plus.
Mais là, pour Steel Ball Run, forcément, il y a les années qui aident, mais le dessin est beaucoup plus moderne et plus
C'est super
lisible
beau.
aussi que pouvait l'être Stardust. Donc, et du coup, repasser à Phantom Blood, c'est difficile, mais.
Personnage carré.
C'est ça. Mais ouais, du coup, il est vraiment, vraiment cool, quoi. Steel Ball Run.
Moi, c'est ma partie préférée pour le moment.
Pareil, le côté western en plus,
Ouais, le road
c'est
trip et
kiffant.
tout.
Ouais.
Bah, très bien. Je vous laisse la parole encore une fois et
Oh.
vous allez, oui, je suis grand seigneur ce soir. Vous allez nous parler de Bonne Nuit Poun Poun 12. Alors, on va voir, vous allez me dire
Attends, tu
si.
l'as pas lu?
Non,
Tu
j'ai
l'as
pas
pas
lu.
lu?
Mais chacun son tour.
T'étais au Japon?
Chacun notre tour. J'étais pas au Japon, je l'ai pas lu, je l'ai pas lu, donc je vais vous laisser en parler sans trop spoiler évidemment, c'est juste savoir si ça,
Il n'y a pas grand-chose à spoiler, de toute
si on
façon.
descend toujours plus bas dans la sinistrose totale.
Pas
Vas-y,
si tu
Tonton.
lis juste le résumé.
Oui, les deux premières pages quoi.
Mais alors, ouais, moi je veux juste dire ça, c'est que le résumé du tome précédent et la fiche des personnages en tout début, c'est rien que pour ça, il faut acheter ce manga parce que
Ça
c'est
fait cher les
vraiment
deux pages quand
génial.
même, hein.
C'est déjà 2 pages
Oui.
et en fait il fait une version shonen
C'est trop bien. J'ai envie de lire ce
qui est
manga, moi.
super drôle et moi aussi j'ai envie de le lire.
Manga avec un résumé au début, j'ai jamais vu ça,
Ouais,
quoi.
et avec un espèce de Kamehameha Good Vibration qui est trop fort.
Puis les noms des persos, Princesse Foufoune.
C'est génial. Et du coup, et ça contraste énormément avec le tout début du manga, et
Ah
c'est
oui.
là où on voit que Asano est trop fort, notamment au niveau du dessin et de la mise en scène. C'est que on commence directement le premier chapitre avec on replonge en fait dans l'enfer que nous avait laissé le précédent. De toute façon, on n'en finit plus de tomber dans la noirceur de.
Je trouve que ce tome, c'est assez léger, tu vois. Comparé à d'autres avant où il se passait des trucs plus graves. Là, c'est un peu une transition.
Ouais, mais les conséquences, là on
Oui,
a
ça
les
ouais.
conséquences et
Ouais,
il y
ça,
a
les
quand même
conséquences arrivent.
des trucs de fou, mais c'est vrai que malgré tout, je trouve son dessin reste très lumineux, quoi.
Ah oui, ça arrive.
Et bon, c'est trop fort. Hein.
Bon,
Qu'est-ce
je sais pas
qu'on.
toi, mais je suis un peu plus intéressé par la secte que par Poun
Bah en fait, Poun
Poun.
Poun devient de plus en plus antipathique, en fait.
Ouais.
Et du coup,
Il
on
fait pas
a.
grand-chose non plus.
Voilà, et on a l'impression qu'il évolue moins
Ouais.
que peut évoluer la secte qui, elle, passe
Mmh.
dans une phase.
Ils deviennent fous.
Ouais, on sent qu'on arrive à la fin. Et
Ah, mais j'ai
d'ailleurs,
trop
c'est
hâte de
l'avant-dernier
voir.
tome, et
Ah oui.
je sais absolument pas comment il peut finir
Moi
ça.
non plus.
Mais j'ai hâte.
La Terre va exploser, un truc comme ça. C'est possible, hein? C'est
Certainement,
possible.
certainement.
Ou alors c'est un rêve, le mec se réveille.
Ouais, c'est ça.
Bon, bah c'est toujours. Voilà, si on a compte. De toute façon, maintenant, il reste plus qu'un tome, je crois. C'était en
Oui,
13
c'est
tomes.
ça. Oui. Ça
Ok.
sort début novembre, normalement.
Là, ça va être un mois de novembre chargé. Il y aura Bonne Nuit Poun Poun 12, il y aura Bakuman 20.
Ouais, plein de nouveautés qui ont l'air très très
Des
bien.
fins de série et des nouveautés.
Et notamment le
Oui.
nouveau Inuyasano, la fille de la plage.
Ah oui, c'est vrai qu'il sort.
Oui, il y a aussi le Matsumoto Taiyo.
Oui.
Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, oui.
C'est Sony. Sony ou
Sunny,
Smile?
Sony,
pardon.
ouais.
Sunny.
Ce qui est assez foufou. Je parlais rapidement, vraiment rapidement de Kids on the Slope tome 8. Que j'étais le seul à lire. Et je crois que Toon Toon, si c'est pas de bêtises, a commencé la série.
Oui.
Dessiné par Yuki Kodama et édité par Kazemanga. Alors, on arrive vraiment sur la fin, parce qu'on est la série est en 9 tomes, l'avant-dernier tome. Et ben, on est vraiment, voilà, j'ai envie de vous dire, un peu comme on est un peu dans la même dynamique que sur les précédents tomes. C'est toujours aussi bien, ça swing, toujours en rapport avec évidemment la musique. C'est un peu. Les personnages marquent un peu le pas dans le sens où on sent qu'il n'y a plus cette même joie qu'il pouvait y avoir avant notamment depuis la fin du tome 7 où un personnage va quand même pas mal évoluer. Donc voilà, ça tourne toujours évidemment autour de la musique, autour de cette fameuse dernière fête de l'école qui l'année précédente dans l'histoire avait été plutôt un succès pour eux. Et là, même avec les changements, il y a des petits soucis pardon, qui vont se mettre en place, mais ça reste toujours. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je suis pas forcément un grand lecteur de shoujo parce que j'ai pas forcément le. Comment dire.
C'est du shojo?
Josei, le bon.
Oui, Josei, pardon.
En France, c'est la même chose.
Oui, c'est ça, oui.
Ouais, c'est un truc
C'est du
tendance,
shoujo
quoi.
pour les grandes dames.
Voilà. Mais les grands messieurs aussi. La
Comment?
preuve. Les grands
Oui,
messieurs aussi.
exactement, merci.
Parce que Kurita est grand.
Oui, que par la taille.
C'est vrai.
Et donc voilà, ça reste. Je vous dirais la même chose que ce qui a pu être dit auparavant sur Bon Nippon Bun, c'est que ça reste dans la lignée de ce qui s'est fait auparavant. Et je vous conseille toujours, si vous avez commencé, si vous avez apprécié, de continuer, évidemment. Ce serait dommage, à deux tomes de la fin, de s'arrêter sur cette histoire. On va passer maintenant à I Am a Hero, tome 11, Messieurs Kurita et Tuntun, donc dessiné par Kengo Hanazawa, pardon, et édité par Kana. Je vous écoute, ne vous battez pas.
L'ouverture est rose.
Oui, rose avec un mec en slip.
Et
Voilà.
avec des, il a des hachoirs, enfin des gros
Et il y a
couteaux.
des zombies autour.
Kana sait faire des couvertures très vendeuses entre Poun Poun et ça, quoi.
C'est
Donne envie,
vrai.
hein.
Mais non, bah, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire, Kurita, sur I Am a Hero?
C'était trop bien.
Merci.
C'est un des rares mangas où le héros n'apparaît pas pendant un tome. C'est assez fou, je trouve. En
Il
fait,
y
on
en
sait
a un autre
pas.
dont on va parler après.
Oui, en fait, on sait pas s'il y a une histoire principale et des histoires secondaires, ou si tout est principal, tout est secondaire. On sait pas quand ça va se recouper. C'est, je sais pas, comment dire.
C'est trop fort.
Oui, je crois que le mec est trop fort. C'est un génie, le mec qui fait ça. Tout
C'est ça.
simplement. C'est
Alors,
trop beau.
je le trouve un peu moins audacieux dans sa mise en scène qu'il l'avait fait précédemment. Mais c'est toujours
Bon, le
ultra
scénario là
efficace
appelle pas
et
trop.
ouais, c'est vrai qu'il y a enfin ça se transforme un peu en huis clos là sur le
Ouais, sur
coup.
ce tome-là.
Mais c'est juste ultra efficace le il y a quelques découvertes qui sont vraiment cool, les
Fait
personnages
des découvertes que le lecteur avait déjà deviné, mais que les personnages comprennent enfin.
ouais.
C'est un peu ça.
Ouais, et puis bah voilà, les personnages, il arrive toujours à sortir des personnages très très forts et qu'on a envie de suivre et certains de détester. Mais du coup, ouais, c'est toujours génial.
Il y a toujours une de ces tensions aussi dans tous les tomes, je trouve.
Ouais,
Dès qu'il y a
ouais,
un zombie, tu te dis, oula, qu'est-ce qui va se passer? C'est fou,
Je trouve que les
hein.
zombies sont assez terrifiants, je trouve.
Ah oui, dans ce manga, c'est horrible.
Avec les vaisseaux qui ressortent des bras bah, ultra visibles, quoi. C'est assez. Bon. Les yeux, surtout, je trouve, au niveau des yeux, sans l'avoir forcément beaucoup lu, mais ça transparaît notamment par rapport à ça, quoi.
Et
Et
pourquoi tu
puis.
continues pas?
Non, j'ai juste lu, j'ai pas commencé en fait. J'ai
Ah.
juste regardé, jeté, on va dire, dans une librairie, c'est tout. Mais de ce que je vois là, sur les images que je vois, c'est assez bien fait, quoi. Je vais pas dire réaliste parce que dire qu'un zombie est réaliste, c'est toujours.
Non, mais on comprend ce que tu veux dire.
Voilà, c'est bien réalisé en tout cas.
Ouais, et puis tu dis justement sur leur aspect et tout. Et même, je trouve, sur leur mouvement, ils arrivent super bien à rendre leur mouvement. Et c'est ça aussi qui fait que ils sont bien flippants quand même, ces zombies. Et du coup, bah ouais, il est très très fort. Et d'ailleurs, il y a Ressentiment, son précédent manga qui sort là, qui vient de
C'est chez
sortir, je
Kiun?
crois.
Non, pas
Je
Kiun.
sais plus.
Oui, qui c'est Kiun? Transparent, non pas transparent, transcendant ou
Non, Ressentiment.
ressentiment.
Ressentiment, oulala.
C'est bien, t'écoutes, hein.
J'écoute absolument pas.
Et
À
il a fait
chaque
une
fois, vous
micro-sieste,
remarquerez, c'est le point, il y a toujours dans une émission où il y a un moment où j'écoute plus
c'est
ce qui se dit. Hein.
T'es trop concentré sur ce
Oui,
que tu as à dire.
exactement. Je te laisse finir. Hein.
Non, bah voilà.
C'est
C'est
tout?
trop bien.
Alors, j'aimerais juste revenir sur ce que j'ai lu notamment voilà, une interview dans le dernier Comic Coyote Mag, pardon, le 51, numéro 51. Il y avait une interview de Haruka Oikawa, donc c'est en fait c'est la directrice éditoriale qu'elle a été, elle est directrice éditoriale du magazine Big Comic, Big Comic Spirit, excusez-moi, et elle s'est donc notamment occupée de Kengan Hazawa et Dino Asano dont on parlait tout à l'heure avec Bonny Poon Poon. Et j'aimerais juste vous dire la dernière question, la dernière question qui était, la réponse est assez classe, je trouve. La question c'était pour finir, pensez-vous que la société japonaise actuelle permet aux Japonais de devenir les héros de leur propre vie? Donc elle termine en disant. La jeune génération ne semble pas très intéressée par ce genre de héros. Ils préfèrent soit se contenter de peu ou soit rechercher un succès de façade. La dernière phrase est super classe. Je pense qu'il faut se donner du mal pour devenir un héros du quotidien. Donc voilà, je pense qu'elle doit être une bonne source d'inspiration pour les mangaka dont elle s'occupe. Et je trouvais voilà, l'interview tout au long est vraiment vraiment intéressante. Vraiment intéressante à lire et on n'a pas souvent l'occasion de lire justement c'est le travail des Tantôt et ce qu'ils en pensent eux-mêmes.
Tout à fait.
Il me reste Billy Bat tome 12. Donc c'est du Naoki Urasawa, on en parlait tout à l'heure, excusez-moi, avec 20th Century Boys chez Panini Manga et on va en parler maintenant donc chez Pika Édition. Toon, je te laisse nous faire le
Ouais.
pitch exact et précis.
Oh, fou là. Et je l'ai lu cet après-midi. Non, bah, ce que je peux dire, c'est que en fait, on bascule, on change complètement d'arc et de personnage principal, en fait, puisqu'il s'est passé un événement très très important dans le tome précédent. Et là, on suit Kevin, donc le Kevin Goodman.
Dont le nom est en hommage à Kevin Yamagata, le héros précédent.
Voilà, et qui l'a sauvé quand il était petit
Tout à fait.
au moment à Dallas au moment de enfin, de l'assassinat de Kennedy et qui a été sauvé par Kevin Yamagata justement. Et donc là on le suit durant l'année 81 où il est dans une école et il commence bon, il n'est pas très assidu à l'école, mais à côté, il fait des graffitis dans la rue, notamment en représentant Billy Bat ou pardon, j'ai perdu le nom, l'assassinat de Shimoyama sur les rails. Voilà, j'ai perdu le fil, mais voilà.
Ouais, en fait, on
Quand
retrouve,
il se
non,
le
mais on retrouve en
voilà.
fait par le biais de ces
On
tags
retrouve.
les éléments importants de l'histoire. Donc, notamment le coup de boule de Kevin Yamagata sur le tome précédent contre
Ouais,
le français, voilà, etc.
il y a voilà, donc il y a pas mal enfin il y a pas mal de choses et ça change complètement le point de vue. Il y a des nouveaux personnages qui sont très intéressants comme par exemple la jeune femme qui veut devenir mécène de Kevin justement.
Oui.
Qui est un personnage typiquement Urasawesque et le retour de Smith aussi l'inspecteur Smith enfin l'inspecteur l'agent Smith qui a un petit peu évolué puisque
Mec de
forcément
Matrix?
il s'est passé
Non.
presque il s'est passé 20 ans en fait entre le tome précédent et celui-ci et du coup il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce tome, c'est toutes les références aux années 80, les références musicales. Kevin, notamment, qui est juste le portrait craché de Michael Jackson. Michael Jackson, qui a énormément de références dans ce volume, notamment par le biais de Thriller et du clip et de la chanson, etc. Et voilà, c'est comme d'hab, c'est ultra référencé. Il y a une apparition d'un personnage historique qui est assez étonnante à ce niveau-là. Et ouais, ça annonce que du bon pour la suite. Ce tome fait encore un peu plus passer la série dans un niveau d'excellence assez rarement vu dans le manga en général.
Oui, j'aimerais juste rebondir là-dessus pour finir sur le fait notamment, voilà, il a une façon de réécrire l'histoire assez, assez originale, je trouve. est assez marrante, alors notamment par rapport à l'histoire autour de la musique, sur ce que va, voilà, notamment sur les remarques de la part de Kevin, et voilà, je trouve que je pourrais voir après sur l'ensemble de l'histoire, sur l'ensemble des volumes quand l'histoire sera terminée, mais voir toute cette réécriture de l'histoire qui est assez impressionnante, notamment l'histoire du XXe siècle, sous les traits de Naoki Urasawa.
Et juste pour ajouter un petit truc, c'est que il a l'art aussi de faire passer ses messages, des messages très très importants, mais de manière assez discrète. Mais là, je pense par exemple au parallèle de Jack Culkin, Walt Disney,
Ah oui.
qui est très très fort, et notamment dans l'histoire de Jack Culkin qu'on retrouve dans ce tome-là, notamment avec le personnage historique
En question.
en question. Et c'est difficile de pas spoiler parce qu'il y a des trucs, il y a des événements vraiment super importants. Mais il fait passer des messages qui sont très importants et il les fait passer en douceur, on va dire.
À fait. Absolument. On va redonner du coup la parole à Kurita sur le seul livre, le seul tome pardon qu'il a lu,
Tout
sans
seul.
personne d'autre ne l'ait lu.
Pourtant, vous devriez.
Oui.
Mais j'hésite à le faire. Et comme tu le lis, je sais pas trop.
Donc mon histoire, hein, on va parler de mon histoire, tome 3, donc c'est un shoujo. C'est
Oui.
dessiné par donc la mangaka ou le mangaka s'appelle
La
Haruko.
mangaka.
La mangaka,
C'est un
donc au
couple de femmes.
D'accord, donc s'appelle le collectif s'appelle Haruko. Et
Non.
c'est Haruko et Kazune
Voilà.
Kawahara, ça.
Oui.
D'accord.
Fais gaffe parce que Kurita va te taper.
Ah oui,
Mais la
je
distance est compliquée,
casse
donc.
les œufs. Après, je viens de chercher, je m'en fous.
Donc c'est édité par Kana, et donc tu vas me dire pourquoi tu trouves toujours ça aussi bien.
Pour moi, c'est le shoujo pour les gens qui aiment pas le shoujo. Parce que ça prend genre des clichés qu'on voit habituellement, mais ça les tourne d'une manière. Je sais pas, c'est pas de la parodie, mais.
C'est quoi, c'est le shoujo pour les nuls, hein? Après,
Non,
c'est le
pas.
shoujo pour
C'est
les
le
nuls?
shoujo pour les garçons.
C'est le shoujo pour tout le monde. Et pour les gens qui. C'est pas pour les petites filles de 12 ans, quoi. Parce que je pense elles vont pas aimer les petites filles de 12 ans. Parce
Donc c'est pas
que.
pour tout le monde.
C'est pour tout le monde sauf les petites filles. En gros. Parce que ça prend des situations qui peuvent paraître prévisibles. Genre par exemple dans ce tome, les deux amoureux vont dormir dans la forêt pour la nuit. Et tu sais, on peut s'attendre à un truc très romantique et tout. Sauf que là, un sanglier va les attaquer. Et le héros va envoyer valser le sanglier dans les airs à mille lieues. C'est. En fait, toutes les situations qui peuvent être niaises dans d'autres mangas, ici sont tournées en dérision et c'est vraiment super marrant, je trouve. Je crois que c'est le shoujo et même un des mangas les plus marrants du moment que tout le monde devrait lire, ok?
Ah, carrément.
Ah oui. Et le dessin, c'est pas du shoujo habituel avec des gros yeux, des têtes bizarres, avec des proportions dégueulasses et
Et
tout.
puis les héros, on sent vraiment du stéréotype, quoi. Je dirais,
Ah oui. Bah, le
hein?
gros héros, c'est une barrique
C'est ça.
qui fait 2 mètres, super musclé. C'est pas un boulon aux yeux bleus, magnifique.
Exactement. C'est pas, ça change vraiment, comme tu disais, ça change des codes habituels du shoujo.
Ouais, c'est ça.
Notamment. On va terminer avec même si on l'a déjà évoqué dans le podcast de rentrée, mais c'est pas grave. Pour le plaisir,
Moi,
on va
j'étais
parler.
pas là.
Tu n'étais pas là exactement, tu t'es remplacé par Roshkao qui doit peut-être encore nous écouter, je suis même pas
Et
sûr.
c'était bien agréable. Ouais, je m'en doute,
Euh,
hein.
oui, on va parler de Bakuman, tome 19, donc dessiné par, là, je vais me tromper, par Takeshi Obata, et au scénario, on retrouve Tsugumi Oba, c'est édité chez Kana également, et c'est le dernier tome avant le. C'est
C'est l'avant-dernier tome, donc.
l'avant-dernier tome, voilà. C'est surtout ça, ouais, l'avant-dernier tome, parce que la série est en 20 tomes, série terminée. Ben voilà, je sais pas, Toon Toon Kurita, je vous laisse.
Pourquoi pas
Et
toi?
Ah, je peux vous en parler.
Oui, tu peux en parler.
Je peux en parler exactement. Alors ça fait plaisir parce que pour plusieurs choses. D'abord, alors on voit enfin la fameuse petite amie. Alors j'ai oublié qui fait du doublage. Excusez-moi.
J'ai oublié son nom aussi, tu vois. On la voit tellement jamais.
Ayumi ou non?
Non. Non,
Enfin,
Azuki?
Azuki.
Azuki, c'est oui,
Merci,
exactement.
Shikao. Tu
Merci.
vois.
Parfait. Et du coup, voilà, on la voit enfin, parce qu'elle était apparue, je crois, sur une des couvertures, il y a deux ou trois tomes de ça, mais en apparaissant juste sur une page du tome, mais par contre, là, on la voit enfin un peu plus, de façon un peu plus importante, conséquente, notamment dans son rôle de doubleuse. Et voilà, dans le fameux, le comment dire, le fameux
Le
problème qui va
fameux.
se poser sur la fin du tome. En tout cas, un problème qui va se poser pour les otaku japonais, mais pas forcément pour le
Ouais.
pour les je ne spoile pas, hein, qui pose problème pour cette frange limitée de personnes, mais pas pour le grand. Non, quand je dis limitée, c'est qu'elles sont pas en grand nombre, c'est pas qu'elles
Ah,
sont limitées
d'accord.
intellectuellement. Je préfère
Bon, quoique,
préciser. Je
oui,
préfère préciser, non, mais
c'est un peu lié.
oui, enfin voilà, non mais
On va vexer des gens.
les trois auditeurs ennemis que nous avons, nous excusons par avance
Pardon, Dende.
pour cela. Non. Voilà. Après, moi, ce que je trouve, j'ai un peu hâte d'un côté aussi que la série se termine
Oui,
rapidement,
bah oui, plus grand chose à faire.
parce que là, on retrouve vraiment sur le côté. Avant, c'était on se fait on fait la concurrence avec le premier parce qu'on veut sa place du premier.
Ouais.
Et là, on fait la concurrence avec le premier parce qu'on
Veut
veut
la
que le
place du
dessin
premier.
animé sorte avant. Voilà, c'est un peu artificiellement
Prolongé.
prolongé alors qu'il n'y a pas
Je suis pas
forcément besoin,
d'accord.
quoi.
Bon,
Je pense que
sur
toutes les
les tomes.
thématiques ont dû être abordées tout au long de ces 19 tomes et donc sur le
Ouais, je
20e tome
pense.
également.
Ouais, mais sur les tomes précédents, effectivement, sur les deux, trois derniers tomes, peut-être, c'était. Ça s'est. Enfin, ça s'est soufflé un petit peu sur le côté création et tout. Mais là, justement, je trouve que dans. Enfin, dans ce tome-là et dans le précédent, il y a vraiment eu. Enfin, je trouve, et c'est justement, je pense, parce qu'on rentre dans la dernière ligne droite, mais il y a un vrai gros accent qui est mis sur le côté création et le boost qu'ils ont, et j'ai trouvé ça vraiment cool la façon dont c'était fait. Après, je suis d'accord et je pense qu'il n'en faut pas plus, que c'est bien que ça se termine au dernier tome, enfin au 20e tome, dernier tome, ouais. Mais là, sur ce tome-là et sur le tome précédent, je trouve quand même qu'ils ont été ils ont été vraiment percutants.
Fait, moi je pense que j'aurais préféré que l'adaptation en animé qu'ils attendaient tant arrive un peu avant. Parce que en deux tomes, je sais pas trop ce qu'on va faire. Enfin, en un tome même maintenant.
Et puis il y a
Et
des
puis.
problématiques dans le dessin animé comme il y a des problématiques qu'on a pu
Ouais,
voir dans le
et.
manga.
Du coup, on aurait pu avoir quelques tomes là-dessus, je pense.
Ouais, mais
Exactement.
là, il aurait fallu mettre en scène la relation entre Azuki et. J'ai perdu le nom.
Machiro.
Putain,
Machiro.
Mashiro.
Ouf, c'est
Oui,
dur ce
aussi.
soir, hein.
Du coup, là, je pense que ça aurait été un peu chiant.
Non, mais on aurait pu avoir genre des. Comment dire? La relation avec les gens qui produisent l'animé, avec le duo de mangaka, et trucs comme ça. Ça aurait pu être intéressant, je pense.
Ouais, mais ça aurait été, enfin, je pense que ça aurait
Peut-être
été mis
inutile,
plus ou moins de côté.
mais.
Ça aurait été super intéressant, en effet, mais
Ouais.
je pense que le fait que. Enfin, là, on va voir comment ça se termine, mais
Oui, je sais pas.
cette histoire de mariage entre les deux héros, en fait, forcément, sur la suite, ça aurait pris une grosse partie, et voilà, ça aurait été.
Ce qui aurait pu être évité, c'est le deuxième arc sur Toru Nanamine qui servait un peu
Oui,
à rien.
c'est clair.
Je me fais botter le cul une fois, mais j'ai rien compris, donc je me fais botter le cul une deuxième fois. Et je trouve qu'il est pas, il était vraiment ultra gratuit cet arc-là, parce que finalement, ça n'a pas fait beaucoup, ça n'a rien apporté finalement dans la suite de l'histoire, mis à part le côté horripilant du personnage.
Et surtout que le premier, enfin, si ça a eu le mérite de, ça a eu le mérite de poser une question super intéressante.
Oui.
Sur l'âge des auteurs et l'âge limite pour écrire du shonen.
Mais par contre, le deuxième arc, c'était
Mais
un peu caricatural. Genre, on fait une grosse société qui
voilà,
fait des mangas.
c'est clair,
C'était un peu débile.
c'est trop, enfin, c'était tellement abusé. Et puis
Ouais.
le personnage, enfin, moi j'avais bien aimé au début, sur le premier arc, où il apparaissait parce que ça faisait un vrai méchant, même si la
Ouais.
fin de l'arc était vraiment carrément bâclée.
Ah oui.
Mais c'est clair que là, son retour
Et en fait, t'es
sur le
méchant et
deuxième.
arrête d'être méchant. Voilà.
Bon, d'accord.
C'est
Oui,
ça.
c'était exactement.
J'ai perdu, je m'en vais.
Je garde la balle, hein, par contre.
Super. Parfait. Donc voilà, on attend quand même assez
Oui,
impatiemment la suite, hein, la
bah
fin
oui, il faut que ça
surtout,
se finisse quand même.
qui va sortir. Alors c'est un peu dommage, je trouve. Bah, c'est un peu dommage. Après, c'est une stratégie aussi de leur part, mais de sortir le tome là aussi, avec un écart aussi important que.
Ah
Parce
oui,
que.
c'est quoi, 5 mois?
Ouais,
Non?
je crois que 5 ou
Ouais,
6
c'est un
mois.
truc dans le genre.
Je comprends pas.
C'était assez impressionnant parce que d'habitude les tomes sortaient assez rapidement, tous les 2 mois, si je dis pas de bêtises.
Non, c'était souvent assez long quand même.
C'était tout, plus tous les trimestres, ouais.
D'accord. Mais bon, là, ça reste encore plus long que ce qui s'est fait habituellement. Donc, c'est un petit peu dommage parce qu'on a hâte aussi de voir. Sinon, on va être obligé de regarder les scantrads et on n'aime pas ça, quoi.
Ah, non.
Le mot est lâché. Le mot est lâché.
Je suis pas assez en manque de Bakuman pour lire les scans, hein, tu sais.
Ah, surtout à un mois de la sortie du
Bah
manga
ouais, c'est un
dernier
peu
tome,
inutile
quoi.
quoi. Un petit peu. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour, messieurs, de des alors aussi bien des premiers tomes que des fins de série, que des séries en cours. Alors on va lancer une nouvelle rubrique dans cette. Donc attention, on rigole plus, on rigole plus.
Nouvelle rubrique.
Nouvelle rubrique. Une rubrique rétro, parce que c'est bien de parler des mangas qui sortent, mais c'est aussi bien de parler de ceux qui sont sortis il y a quelques années de cela, qui sont plus aussi facilement accessibles maintenant, aujourd'hui. Alors, je me suis attaqué à cette première rubrique avec un manga que vous ne connaissez pas forcément et qui revient en fait dans le
Éponyme.
fil de l'actualité. Je vais vous parler de Parasite. Donc, Parasite est un manga de Hitoshi Iwaki, pré-publié de 88 à 94 dans les magazines Morning Open Shukan puis Afternoon de la Kodansha. La série comprend un ensemble de 10 volumes, publiés en France de novembre 2002 à août 2004 chez Glénat. Et en termes de récompense, il avait notamment obtenu le prix du manga Kodansha, donc de la maison, dans la catégorie Seinen en 93. Alors, l'histoire, donc, une nuit, des sphères de la taille d'une balle de tennis tombent sur le Japon. Oui, c'est présenté comme ça, vraiment, sur la première page, en plus du premier tome. Il en sort des créatures en forme de serpent. Leur but, prendre la place du cerveau humain. Shinichi, le héros du manga, se fait également attaquer par un de ses parasites. Heureusement pour lui, ce dernier n'arrive pas à atteindre le cerveau et se retrouve bloqué dans son bras. Une fois le parasite en place dans le cerveau, ce dernier peut modifier le visage de la personne, mais aussi le transformer en arme coupante extrêmement dévastatrice. Si le but premier de ces créatures semble d'être de se nourrir de chair humaine, la suite de l'histoire montre une véritable évolution des personnages, faisant même dire à l'un d'entre eux, je cite, les organismes parasitaires et les humains sont les membres d'une même famille. Nous sommes vos enfants. De nombreux thèmes sont évoqués, du respect de la nature à celui de la socialisation, en passant par la soif de savoir. Si la fin de la prépublication date d'il y a tout juste 20 ans au Japon, il reste aujourd'hui tout à fait contemporain quant à ces questionnements. À une époque où la question du nucléaire et du développement durable se doivent d'être centrales, Parasite est dans la suite logique d'une réflexion tout à fait pertinente. Je pourrais facilement reprendre la fameuse expression. L'homme est un loup pour l'homme, mais les parasites évoqueront plus facilement les zombies vampires ou possédés décrits par Richard Matheson dans son roman Je suis une légende. Alors que le début du roman évoque un affrontement manichéen entre Robert Neville, pardon, le héros, et ses adversaires, la suite des événements est moins évidente, le but de ces derniers étant de bâtir un nouvel ordre social sur les bases de l'ancien monde. Pour revenir à Parasite, si de nombreux faits tragiques viennent prendre place au cœur de l'intrigue en frappant directement Shinichi, on ne ressort pas non plus avec une vision négative de la lecture du manga. On s'étonne du niveau de réflexion de plus en plus élevé de Migi, donc Migi c'est le surnom qui a été donné au parasite ancré dans sa main droite. Puisque Migi ça veut dire main droite en japonais. Le manga n'oublie pas non plus la vie étudiante du lycéen, offrant de nombreux raccords à la réalité dont la vision des parasites semble nous éloigner parfois. Cependant, le titre n'est pas exempt de tout reproche. D'une part, le dessin semble provenir d'un autre temps, avec un manque de vivacité au niveau de l'action, mais aussi un style vestimentaire d'un autre temps et des expressions du visage manquant parfois de conviction. De plus, l'adaptation française manque parfois de sérieux entre, je cite, deux points ouvrés les guillemets, nos mille sous-entendus quand il a bu de l'eau et autres bonjou. Ce manga fait partie de ces très bons titres pas toujours bien connus en France, mais disposant d'une belle réputation chez nous. Pour finir, l'actualité autour de Parasite se fait très présente au Japon. qui, à l'occasion des 20 ans de la fin de sa prépublication, prépare une série animée produite par Madhouse et commençant en octobre, ainsi que deux films live prévus respectivement pour le 29 novembre prochain et courant 2015. Donc voilà, alors on avait parlé de ce mangaka précédemment dans une chronique effectuée par Toontoon autour du manga Eureka, qui était édité par Kumiko, si je ne dis pas de bêtises.
Oui.
Donc voilà, en tout cas, c'est un très bon manga. Qui avait été édité il y a 10 ans, il y a 10 ans, il y a un petit moment de ça,
C'est Glénat.
il y a 12 ans même, qui a été commencé à être édité il y a 12 ans chez Glénat, qui mériterait.
C'est ça. Et qui se trouve. Alors, la dernière fois que j'ai regardé, c'était assez cher en occasion là, pour les trouver.
Mais bon, techniquement, logiquement, avec l'actualité qui arrive, il y a peut-être aussi un. Ça serait bien
Ça serait cool une
que cette série
réédition.
puisse être rééditée. Parce qu'elle n'est pas forcément connue, et voilà, comme tu le dis, elle devient vraiment assez chère en termes d'occasion, au niveau de l'occasion, quoi. Donc voilà, messieurs, alors on va terminer sur notre rubrique habituelle, hein, qui sera pas forcément très radiophonique, on va dire, hein, puisqu'on va vous parler des plus belles couvertures qu'on a trouvées sur les mangas qu'on a évoqué aujourd'hui. Donc moi je n'ai retenu deux. Donc j'ai retenu d'abord celle de Skate Dance, tome 12, et celle de Billy Bat, tome 12. Bah, en même temps,
Classique.
Skate Dance sont toujours magnifiques, je trouve. Notamment quand on voit les trois personnages sur une vue d'ensemble, c'est toujours assez bien fait.
Ouais, c'est ces trucs un peu aquarelle, enfin pas aquarelle, mais c'est peinture, on va dire.
C'est ça.
Ça rend très bien.
Exactement. Et la deuxième, c'est Billy Bat, très coloré, je trouve, par rapport à. Ça change par rapport à ce qui était fait avant. Et même si on retrouve évidemment toujours la même structure au niveau de la couverture, pardon. Et ça, moi, ça m'a du coup fait apprécier les tags que faisait Naoki Urasawa par le biais de Kevin dans le manga.
Ouais, et comme quoi ce mec s'est tout dessiné.
Exactement. Et tout dessiné très bien. Kurita, quelles sont tes couvertures du bimestre?
Moi aussi, il y a un tome 12 avec Bunny Poon Poon, tome 12. Couverture toute noire où on voit Poon Poon avec des cornes. Ça montre que le manga il est trop dark maintenant, vous voyez. Mais j'aime bien
Comparé au
le
début qui était pas dark du
côté. Ouais,
tout.
j'aime bien ce côté minimaliste à chaque fois, mais qui retranscrit bien l'ambiance du tome. Bah, très sombre, justement. Et mon autre couverture préférée, rien à voir, très très colorée, c'est Mon Histoire tome 3, parce que j'adore le côté crayon pastel qu'il y a à chaque fois sur les couvertures, c'est beau, ça te donne envie de le lire. Voilà.
Toon, alors trois
Moi, je...
couvertures, du coup, t'as pas
ouais,
le choix était
j'ai
dur.
plus de trois couvertures en fait. Wet Moon, c'est pour l'ensemble des trois couvertures parce que bah, elles sont toutes superbes. La dernière, elle est. J'en ferai bien une affiche où on voit la lune de Méliès et le héros en train de courir, d'échapper à son destin, on va dire. Mais elles sont vraiment très très classe. En plus, les jaquettes sont un peu cartonnées. Enfin, je sais pas comment dire, gaufrées ou je sais pas. Mais
Gaufret.
ouais, je sais
Gaufret
pas.
sucré.
Non, mais je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, ça fait assez épais ouais, ça fait un peu cartonné. Je sais pas
Un peu
comment on peut dire
canson?
en fait.
Papy
Un peu
canson?
canson, ouais. Et bah, elles sont super agréables au toucher. Voilà. La deuxième, c'est Kid I Luck. Qui est alors pareil.
Très bonne tête, oui.
Comment?
Elle a une bonne tête, ouais.
Ouais, elle est super colorée, elle est assez pop. Et elle est vraiment cool. Sinon, les dernières, c'est celle du chef Nobunaga.
Donc tu n'as pas parlé?
Non, j'en ai pas parlé, j'en parlerai une autre fois, parce qu'il y a d'autres tomes qui vont arriver, donc j'aurai l'occasion d'en reparler, mais les
Et j'aurai
couvertures
rattrapé mon
sont
retard.
vraiment, vraiment. Les couvertures sont super belles avec des couleurs à chaque fois assez dingues. Donc
En fait, c'est
voilà.
toujours une couleur et le dessin derrière.
Ouais, et bah il y a des nuances de, enfin,
Oui, des nuances de
c'est
couleurs,
fait à
mais...
la peinture, mais, donc il arrive à nuancer et c'est super
C'est
beau.
magnifique.
Très bien, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette émission de rentrée, on va dire, du bimestriel. Encore pas des choses à adapter encore, mais voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. On a réussi à pas faire trop long, donc ça c'est cool. On n'a pas
Cool
fait,
pour nous
voilà,
surtout.
oui,
On est fatigué.
pour les... Non, non, encore tellement de temps.
Ouais, t'as encore le décalage horaire et tout.
Et alors je voulais aussi, parce qu'on on le fait jamais assez en tout cas, remercier la plateforme PodCloud qui héberge l'ensemble des podcasts de podcastination, dont le bimestriel, dont Celluloid et les podcasts dédiés pardon, aux jeux vidéo. Donc on peut nous retrouver sur podcastination.podcloud.com. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On vous
Ouais.
donne rendez-vous pour une prochaine émission qui
On ne
aura
sait pas
lieu
quand. Très bientôt.
logiquement dans 2 mois,
Oui,
pour respecter l'ordre de marche.
pour le bimestre.
Exactement, pour le bimestre, tout à
Mais
fait.
pour les autres, on en aura plus rapidement, bientôt.
Là oui, là oui, il y a des... Oh là. Je ne veux rien dire parce que quand on dit des choses et qu'on les fait pas, on va se faire taper sur les doigts par ceux qui ne les écoutent pas. Donc c'est un peu dommage et c'est aussi pour à nous de faire attention à ce qu'on dit. Je voulais vous remercier. Je voulais remercier Tuntun, Kurita d'être présent
Merci à
ce
toi. De
soir.
rien, merci, merci.
Et puis...
Merci à HKO.
Merci HKO,
Merci pour ces commentaires
l'auditeur
avisés.
invisible. Non, je rigole parce que je vois son 5 putains de mois. Et puis voilà, c'est tout. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne nuit, une bonne journée, quel que soit le moment auquel vous nous écoutez. Et puis on vous dit à bientôt.
Salut.
Salut.
Thank you.